explorer de nouveaux mondes étranges,
traverser des mers lointaines, franchir des déserts et escalader des montagnes de glace.
Amis de l'aventure, l'aventure nous appelle.
Le temps d'un bivouac.
Sur la liste des pays qui fascinent, intriguent, déboussolent le plus les Occidentaux, le Japon figure en bonne place. La romancière Muriel Barbery s'est prise de passion pour ce pays avant même d'y avoir mis les pieds. Elle n'a pas non plus attendu que les Jeux Olympiques mettent le pays au centre de toutes les attentions. L'intérêt de l'écrivaine pour la culture japonaise n'avait d'ailleurs pas échappé aux millions de lecteurs de son deuxième roman, L'élégance du hérisson. C'est juste après avoir écrit ce livre que notre romancière nippophile s'est rendu pour la première fois en 2006 au pays du soleil levant. Suite à ce premier voyage, résolument sous le charme, elle a vécu pendant 2 ans à Kyoto, ville dans laquelle se déroule l'histoire de son dernier roman, Une rose seule, publié chez Actes Sud. Une errance pleine de sensations, d'émotions et de rencontres qui nous a donné envie à notre tour de partir à la découverte du Japon, de Kyoto, de ses temples zen, de ses jardins de pierre et de mousse et de ses cerisiers en fleurs. Avec pour guide Muriel Barbery. Et en fin d'émission, nous retrouverons Nancy Moots, nos amis de la série Nu et culotté de France 5. Pour le dernier épisode de la saison, ils nous emmèneront dans les Landes. Voilà pour le programme de cette émission, préparée par Claire Tesser et réalisée par Hélène Kouyoumdjian et Étienne Bertin, avec à la technique Michel Bézikian. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Kyoto, effectivement, est une ville très, très mystérieuse. Elle est mystérieuse pour nous, mais elle est mystérieuse pour les Japonais. Elle est mystérieuse pour les gens d'Osaka, qui sont pourtant à 40 km d'ici. Elle est mystérieuse encore plus pour les gens de Tokyo. L'architecture est différente. C'est une ville qui est tracée au cordeau. Et puis, c'est à la fois une ville très vivante, mais le monde nocturne de Kyoto nous est totalement inaccessible. Mais il est aussi totalement inaccessible à la moitié de la population de Kyoto. C'est un monde de petits espaces, de petits bars, privés de 4-5 personnes. Pour y rentrer, il faut être patient, il faut des années, il faut être introduit par quelqu'un qui vous introduit dans le lieu. Et voilà, donc on vit un petit peu, on se balade dans ces rues avec cette espèce de mystère permanent. On voit ces petites portes minuscules. Et puis, on sait qu'on n'y pénétrera probablement jamais.
La voix de Pierre Fournier en 2004, il dirigeait à ce moment-là la villa Kuyojama, un établissement artistique français à Kyoto. Bonjour Muriel Barbery.
Bonjour.
Kyoto, c'est une ville dans laquelle vous avez vécu pendant 2 ans. Vous êtes d'accord avec cette idée que Kyoto est une ville mystérieuse, y compris pour les Japonais ?
J'imagine, et pour moi, ça reste un mystère total, même après avoir écrit... un roman entier sur Kyoto, le mystère demeure intact. Oui. Ouais.
Décrivez-nous cette ville si mystérieuse.
Alors, d'abord, il faut savoir qu'on n'atterrit pas à Kyoto. Hein. Il n'y a pas d'aéroport à Kyoto. Donc, on atterrit à l'aéroport international du Kansai, à Osaka. Et ensuite, on prend soit le train, soit une navette qui suit donc la côte, puis rentre dans la plaine et met à peu près 1h30 à rallier le centre de Kyoto. Et cette route est probablement une des plus laides au monde. C'est une série de bâtiments de béton, sans arbres, sans vie apparente. Et puis, on arrive à Kyoto, et là déjà tout change, même si le centre de la ville est lui aussi, le centre moderne est lui aussi... assez laid, hein, bardé de fils électriques et d'enseignes au néon. Il est déjà attachant, mais bien sûr ensuite, il faut aller ailleurs dans Kyoto ouais. pour saisir le charme de cette ville.
Le charme et la beauté à laquelle vous êtes particulièrement sensible. C'est amusant de commencer par ce contraste, par la laideur qu'il faut savoir dépasser pour arriver au cœur des choses et à la beauté des choses. Vous, Muriel Barbery, vous avez aimé le Japon avant même de vous y rendre. Et on pouvait se rendre compte de cet amour pour le Japon en lisant votre deuxième roman, L'élégance du hérisson. C'est suite à L'élégance du hérisson que vous êtes... enfin aller vers le Japon.
Alors, en fait, j'y suis allée juste un peu avant la sortie du livre. J'avais demandé à mon éditeur, qui s'enquérait de la valoir que je souhaitais, que je voulais de quoi aller passer les vacances de Pâques à Kyoto.
Ouais, alors, racontez-nous cette découverte.
Alors, ça a été un choc au début, comme je vous l'ai dit. Mais une fois arrivée dans la ville, Je me souviens encore du premier jardin que j'ai visité, des premiers jardins, puisque ce sont ceux du pavillon d'argent, le premier temple où je sois allée. Et là, le vacillement a été immédiat et total. Le sentiment d'entrer dans un autre monde, d'être au cœur d'une réalité incompréhensible, bouleversante. Le sentiment d'être en terre étrangère, d'être dans un territoire qui ne serait jamais le mien, mais d'en tomber amoureuse comme on peut tomber amoureuse d'un homme étranger et d'avoir envie que la relation se poursuive longtemps.
Alors il y a un auteur que vous avez lu, je crois, Muriel Barbery, un écrivain voyageur qui a séjourné au Japon et qui a écrit notamment Chroniques japonaises.
Ah, Nicolas Bouvier.
C'est Nicolas Bouvier, bien sûr. Voici ce qu'il disait en 1987 au sujet de ce pays et de certaines incompréhensions qu'il peut susciter chez les Occidentaux qui s'y rendent.
Ce qui se produit quand un étranger arrive au Japon, en général avec des prétentions tout à fait immodestes, ils veulent que les guides japonais leur livrent l'âme japonaise en 3 semaines. Il y a ces prétentions immodestes qu'il faut complètement éroder, mais d'ailleurs le Japon tape dur sur l'ego occidental et ça ne fait pas de mal. On ressort d'une expérience japonaise toujours un peu allégée, amincie, mais je crois qu'il faut se rendre compte que toutes sortes de difficultés qu'on rencontre et qu'on nous croit à tort spécialement destinées sont des difficultés que les Japonais connaissent entre eux. La vie sociale japonaise n'est pas simple du tout. Et alors, à tout moment, et c'est une erreur que j'ai commise moi-même, je me suis dit, on me traite de la sorte parce que je suis étranger, c'est que je ne connaissais pas assez bien les structures, les exigences et l'étiquette de la société japonaise, qui est extrêmement rigoureuse. J'avais l'impression que certaines brimades m'étaient réservées parce que j'étais étranger. J'aurais été japonais, j'aurais été brimé encore plus fort. On me témoignait, en somme, plus d'indulgence que je n'en méritais. Alors, il faut apprendre un peu ce jeu de cache-cache qui n'est pas simple, et une fois qu'on en a compris les rudiments, eh bien, on se meut avec beaucoup plus d'aisance dans cette société, aux innombrables chicanes.
Nicolas Bouvier, en 1987, les chicanes sont innombrables au Japon, Muriel Barbery.
Alors, j'ai une immense admiration pour Nicolas Bouvier, dont les textes sur le Japon en particulier, mais surtout ses voyages me portent depuis très longtemps dans cette langue à la fois si poétique et si précise, qui fait que, alors qu'il est fort modeste et qu'il dit qu'on ne peut pas saisir si facilement l'âme du Japon, je trouve qu'il en a donné à voir le plus beau et l'essentiel. Alors, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis allée au Japon dans des circonstances très privilégiées. J'étais résidente de la villa Kuchiyama, je n'avais pas à travailler, c'était une résidence d'écriture. Bien sûr, je suis restée bien plus longtemps que cette résidence et je suis arrivée un peu avant, mais je faisais partie des privilégiés qui peuvent passer leur journée à découvrir la culture japonaise, à se promener dans Kyoto, à déambuler le long du chemin de la philosophie sans avoir à subir de chocs culturels forts.
Ça, c'est le cadeau de l'élégance du hérisson. C'est-à-dire que ça vous a donné cette aisance-là de pouvoir prendre 2 années sabbatiques pour découvrir ce pays qui vous avait fait tant rêver.
Mais en réalité, j'ai pris plus que 2 années sabbatiques, puisque je vide ma plume, ce qui est une chance folle et qui est très peu courant. Et en ce qui concerne les 2 années à Kyoto, j'y repense avec une nostalgie poignante, parce que je savais sur le moment que j'étais en train de vivre quelque chose d'exceptionnel et que j'avais cette chance folle engendrée par l'élégance du hérisson de pouvoir être là. Mais j'en ai une nostalgie très forte. Mmh. Je regrette qu'elle soit passée si vite.
Oui. Nicolas Bouvier évoquait cette incompréhension parfois de la culture japonaise. C'est parce que justement la culture du Japon est si insaisissable pour nous que vous avez mis du temps avant d'écrire un roman dont l'histoire se passe entièrement au Japon et dans cette ville mystérieuse de Kyoto.
Alors l'insaisissable ne fait pas tellement peur aux romanciers. Ce qui m'inquiétait, c'était l'irrévérence. C'était face à tant de beauté et avec le sentiment de sacré que j'avais en foulant les chemins de ces temples et jardins, j'avais vraiment peur de manquer de respect à la ville et de manquer de respect à son esprit sacré. Je ne pouvais pas m'affronter à cette difficulté-là.
Ouais. Finalement, vous vous y êtes affronté avec ce dernier roman, Une rose seule. Alors, c'est l'histoire de Rose, cette femme malheureuse qui est dans un moment de sa vie où elle n'attend plus grand-chose. Elle reçoit cette invitation d'un notaire à venir découvrir la lettre et le testament de son père, qu'elle n'a jamais connu, un japonais, marchand d'art. Elle se rend donc à Kyoto. Et là, avant de prendre connaissance du testament, elle est invitée par l'ancien assistant de son père à une visite initiatique des temples et des jardins de la ville. C'est une errance dans laquelle vous nous emmenez. Qu'est-ce qui vous a autorisé à finalement l'écrire, ce roman?
Je ne sais pas, peut-être la maturité ou une certaine forme d'inconscience en vieillissant, mais plus probablement le fait que enfin l'expérience s'est métabolisée après tant d'années. Mais ce qui a débloqué les choses, c'est aussi que j'ai choisi de prendre un point de vue occidental sur la ville. Encore une fois, je n'ai aucune expertise sur le Japon, aucune érudition particulière. Je n'ai que mes impressions. Et le personnage de Rose me permettait d'avoir cette naïveté et cette candeur dans la restitution de mes premiers durables émerveillements.
Ouais, parce que le chemin qu'elle emprunte, c'est évidemment un chemin que vous avez vous-même emprunté.
Oui, oui. Des centaines de fois, peut-être, j'ai parcouru les chemins que Rose parcourt pendant le roman. Et au début, je pensais qu'il n'y aurait que ça, une errance dans la ville. Ça devait être une espèce d'itinéraire flottant et un peu onirique. Mmh. Et puis, évidemment, ça se complique toujours quand on écrit, donc c'est devenu autre chose.
C'est devenu aussi une métamorphose, un parcours psychologique, comme souvent dans vos romans, hein, quelqu'un qui renaît à la vie. Vous allez nous emmener à la découverte des temples et des jardins de Kyoto, partager avec nous votre passion pour la culture japonaise. Muriel Barbery nous emmène bivouaquer au pays du soleil levant cet après-midi sur France Inter. c'était Shintaro Sakamoto qui chantait Don't Know What's Normal sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
Dans ce jardin, on peut voir les montagnes à l'horizon, la végétation qui rappelle les champs, ainsi qu'une rivière. Une des spécificités du jardin est la cascade derrière nous. L'eau semble s'écouler directement depuis la montagne Higashi. C'est la représentation d'un paysage mélancolique évoquant les légendes japonaises. Hisen Savari est une technique traditionnelle utilisée dans la conception des jardins japonais. Le mot Hisen désigne la cascade et Savari, les branches d'érable qui la dissimulent. La cascade n'est pas entièrement visible, elle est masquée à certains endroits par des feuilles d'érable. Cela crée une sensation de profondeur.
Le paysagiste japonais Tomoki Kato dans le jardin zen Murin Han à Kyoto. Nous sommes donc arrivés dans l'un de ces jardins zen. Que parcourt votre héroïne Muriel Barbery, votre héroïne rose de votre roman Une rose seule, publié chez Actes Sud. Et on entendait à l'instant toute la minutie, cette cascade et la façon dont les feuilles de l'arbre la cachent partiellement. C'est très représentatif de la façon dont sont pensés ces jardins, Muriel Barbery.
Oui, je me souviens que la première fois que je suis allée, non pas dans les jardins du pavillon d'argent, mais dans ceux du Nanzenji, à l'arrivée, au devant de ces temples, il y a un grand carré d'arbres et de mousse, avec au centre un gigantesque portail en bois. Et je me souviens d'avoir vu des femmes en tenue de coton traditionnelle, avec un fichu sur la tête et des paniers d'osier, penchées sur les mousses, sans avoir compris ce qu'elles faisaient. Et en m'approchant, j'ai vu qu'elles avaient des espèces de pinces à épiler en bambou et qu'elles rectifiaient les défauts de la mousse de telle sorte qu'elle redevienne le velours qui devait honorer la beauté de ces lieux. Donc oui, la minutie fait partie du projet japonais en général et des jardins en particulier. Dans les jardins du pavillon d'argent, je suis restée une fois une bonne demi-heure à regarder un jardinier ratisser le sable. De longs mouvements réguliers à commencer et recommencer de telle sorte que la surface du sable gris, en quoi sont sculptés la plupart des jardins zen, soit la plus épurée et parfaite possible.
Il y a aussi ce silence dont vous parlez. Vous parlez dans votre roman d'un silence horizontal. Vous écrivez « Ce silence planait sur les allées ». Elle sentait, alors c'est votre héroïne Rose, elle sentait qu'elle le fendait à mi-ange, qu'il faisait une nappe d'ondes invisibles entre pierre et air.
Lorsque j'étais là-bas, je n'ai pas écrit. D'abord, j'étais encore sous le choc de l'élégance de Hérisson et je ne savais pas encore vers quoi j'allais me tourner. Et ensuite, je découvrais la ville avec un tel appétit qu'il n'y avait pas de place pour autre chose. Mais j'ai pris des notes tout de même. Et celle-ci a été prise dans les allées du Daitokuji. La note qui inspire ce paragraphe, elle date de 2009. Je me souviens avoir écrit à ce moment-là, avoir griffonné sur un coin de carnet que le silence me paraissait horizontal. Et c'est vrai qu'on a l'impression, dans ce complexe de temples zen tout à fait à part, où il y avait à l'époque assez peu de touristes et très peu de monde, j'avais l'impression d'entrer dans une espèce de bulle de silence, de celle qui se forme presque en rêve, et en même temps de le sentir physiquement, que mon corps fendait quelque chose de matériel et néanmoins invisible.
Et en décrivant une allée un peu plus loin, vous dites que c'était en réalité plus qu'une allée, un voyage, une voie vers la fin ou vers le commencement. D'où vient, selon vous, Muriel Barbery, cette puissance d'évocation de ces jardins d'une simplicité extrême ?
Si seulement je savais. Je crois qu'il y a autant d'appréhension de ces jardins que d'individus. Je suis allée à Kyoto avec une amie chère, la chorégraphe américaine Carole Armitage, un jour. Elle y trouvait toujours des figures. Les pierres de Ryōan-ji étaient des planètes perdues dans l'immensité du vide et une métaphore, bien sûr, de l'existence humaine. Moi, je n'ai pas ce rapport figuratif au jardin. J'ai l'impression qu'ils sont des pures formes qui suggèrent, sans figure ni contenu compréhensible, une forme d'intuition de l'existence. Et c'est peut-être pour ça que j'ai mis tant de temps à m'affronter à la tâche de les décrire, parce que il dessine quelque chose de l'âme qui n'est pas possible d'expliquer, mais qui se comprend avec force lorsqu'on y est. Et c'est pourquoi l'héroïne du roman se métamorphose peu à peu à leur contact. Oui.
Qu'est-ce que vous ressentez de la spiritualité de ces lieux ?
Alors, le parcours dans Kyoto est un parcours esthétique, bien sûr, mais aussi spirituel. Vous avez raison. Je ne suis pas une grande spécialiste ni du bouddhisme ni du shintoïsme. Mais je peux vous dire l'expérience que j'ai faite et que j'attribue d'ailleurs à Rose, que j'ai faite sur la colline de Shinyodo, qui se trouvait à côté de chez moi à l'époque, où se trouve un grand temple. Et un soir, je suis allée de l'autre côté de la colline en traversant le temple désert et plongée dans l'obscurité, hors quelques lanternes. Et je me suis retournée sans arrêt parce que j'avais l'impression qu'il y avait des présences derrière moi. Je suis parfaitement athée et rationaliste, comme toute bonne cartésienne qui se respecte. Mais ce jour-là, j'ai le sentiment de la présence palpable d'esprit, au singulier ou au pluriel, qui très clairement naît de la configuration propre de ces lieux, jaillit des arbres, des pierres, de l'agencement architectural, des pavés inégaux, du chemin qui mène jusqu'aux marches du temple, je ne peux pas le dire, mais c'est palpable.
Ces jardins sont la mélancolie transformée en joie, la douleur transformée en plaisir. Ça, c'est ce que dit l'un de vos personnages. Ça revient à plusieurs reprises dans votre ouvrage, le rapport des Japonais au malheur.
Alors, je ne peux en dire que le peu que j'en ai perçu, encore une fois, sans certitude, mais comme le disait Pierre Fournier au début de l'émission, la vie japonaise est dure. C'est dur d'être aussi nombreux sur une île aussi fragile et soumise à autant de cataclysmes. La vie japonaise par elle-même est dure parce qu'elle est extrêmement codifiée, rigide. Et je me demande si ce n'est pas pour cette raison qu'ils ont été capables de dessiner ces jardins qui sont de véritables œuvres d'art et qui atteignent un niveau de beauté suprême. Mais c'est la fonction de l'art et aussi de la littérature en général que de transformer les blessures en lumière, l'ombre en rédemption et de faire en sorte que tous les fardeaux de la vie, dont les Japonais savent beaucoup, puissent devenir beauté.
Allons prendre le thé dans l'un de ces jardins zen.
Il y a ici une salle nommée Tai-an, réservée à la cérémonie du thé. Pour y accéder, il faut suivre ce chemin que l'on emprunte afin d'apaiser progressivement son cœur et de trouver une harmonie avant la cérémonie du thé. En avançant sur ce chemin, pierre après pierre, et en profitant de chaque feuille d'arbre, on peut alors libérer son esprit. Arrivé au bout du chemin, on lave ses mains afin d'être plus apaisé et on entre dans la salle de thé. C'est dans cet état d'esprit qu'on emprunte le chemin pour libérer son cœur.
Le moine zen Shodo Maeda, à quel point, Muriel Barbery, la cérémonie du thé est-elle importante dans la culture japonaise ?
Alors, il n'y a pas de cérémonie du thé dans une rose seule, parce que j'ai en fait assisté au Japon à très très peu d'entre elles. Je connaissais de la cérémonie du thé ce que j'en avais lu dans le livre du thé de Kakuzo Okakura. Et lorsque je suis arrivée à Kyoto, j'ai été invitée à une cérémonie du thé dans une des écoles les plus célèbres qui forment à cet art, à cette voie du thé. Et je n'ai pas du tout aimé le formalisme et l'atmosphère qui régnait. Ça m'a paru très très loin de ce que j'avais lu, de l'humilité, du caractère modeste des cérémonies du thé du temps de Senno Rikyu. Donc je m'y suis finalement assez peu intéressée. J'ai en revanche assidûment fréquenté les salons de thé, les maisons de thé de la ville, où il n'y a pas de cérémonie du thé, mais du très très bon thé.
Dans l'un de ces salons de thé, on vous sert un thé moussu, on le sert à Rose, hein, ce thé, bien sûr, à votre personnage, mais on sent qu'il y a du vécu derrière tout ça. Et au départ, elle le goûte avec un peu de réticence, et finalement, elle a une très très jolie façon de sentir, de déceler les saveurs imperceptibles de ce thé qui a presque pas de goût, mais du coup, le goût de tant de choses.
Oui, c'est le paradoxe d'une grande partie de la gastronomie japonaise qui est très peu épicée, qui est douce et qui pourtant a un pouvoir d'évocation et de plaisir intense. Mmh. Alors, la maison de thé où elle va, c'est Hippodo, qui je crois est la seule où on sert du koicha. Le koicha, c'est une réminiscence de la vraie cérémonie du thé, c'est beaucoup de poudre matcha, beaucoup de poudre de thé avec très peu d'eau, ce qui fait une pâte avec un goût, alors là, pour le coup, très très amer. Les saveurs ne sont pas très fortes, mais l'amertume, elle, est vraiment très très forte. Et la plupart des amis que j'ai emmenés chez Hippodo n'ont pas aimé la première partie de l'expérience. Et pourtant, à chaque fois, elle me donne envie de pleurer. Il y a quelque chose de très primitif et très civilisé en même temps, dans le goût de légumes, d'herbes, de feuillages, dans l'amertume très forte qui finit toujours en une sorte d'évanescence mystérieuse.
Suite de notre promenade au Japon avec la romancière Muriel Barbery, dans un instant, le temps d'un bivouac sur France Inter.
Dans ma chambre le soir, je repasse mes souvenirs en photo. Où les hivers se croisent, m'ont laissé des kilos sur le dos. J'ai souvent laissé faire le temps, mais rien ne changeait. À grands pas de poussière, je cherchais un endroit où aller. S'éloigne, souvenir qui jamais ne s'efface. Avril, une lettre, un regard. Je traînais ce si triste fardeau. Avancer sans phare, s'endurcir l'écorce, la peau. À trop me laisser faire, j'ai souvent pris la contre. Allez.
C'était Avril de Six Pierres dans le temps d'un bivouac sur France Inter.
Je me souviens du premier cerisier en fleurs. C'est un des moments les plus importants de l'année, Sakura, en avril. Ça peut être la première semaine d'avril, ça peut être un peu plus tôt ou un peu plus tard. À la fin d'une soirée, un silence absolu dans Kyoto, les rues sombres, et mon premier cerisier, c'était comme si une neige magique avait choisi de tomber là, sur cet arbre-là et pas ailleurs, parce que l'arbre était blanc comme s'il avait neigé. Et à la différence d'une neige qui pèse sur les branches, qui est lourde, on a l'impression que les fleurs de cerisier tirent l'arbre vers le ciel et vers la nuit. Le premier matin, les Japonais font un détour sur le chemin du travail pour voir les premiers arbres en fleurs. Et alors, ça dure très peu de temps. Donc c'est la plus belle fête, c'est la plus grande fête, mais c'est une fête sans organisation, c'est une fête sans bruit. On se pose simplement sous les arbres et on voit des Japonais soit en groupe avec du saké qui pique-niquent sous les arbres dans les parcs, ou alors seuls. Et ça continue la nuit. Un soir, je rentrais très tard et je vois un Japonais seul sous un cerisier en fleurs, et on produit des petits bruits. C'est tellement beau. Oh, soi, soi, c'est magnifique, comme c'est joli, les gens font ça tout seuls sous les arbres.
L'écrivain voyageur Antonin Potoski décrivant les cerisiers en fleurs à Kyoto sur France Culture dans l'émission Carnet Nomade en 2013. Muriel Barbery, c'est un moment important, cette période des cerisiers ou des pruniers en fleurs. Dans votre ouvrage, vous parlez des pruniers en fleurs à Kyoto.
Oui, il y a trois grands événements végétaux dans le calendrier japonais. Il y a les pruniers qui commencent à la sortie de l'hiver, même certains un peu plus tôt. Il y a les cerisiers en avril-mai, suivant le point du Japon où on se trouve, du nord au sud. Et puis il y a les érables en novembre, le flamboiement des érables, qui personnellement est le moment que je préfère. Mais les pruniers, c'est quand même extraordinaire, parce que ce ne sont pas nos pruniers à nous. Ils ne produisent pas de fruits, mais en revanche, ils produisent un parfum extraordinaire, très très capiteux, très prenant, très fort, dont un parfumeur un jour m'a dit qu'il était infixable, et que c'était la raison pour laquelle, en dépit de son charme, on ne pouvait pas l'utiliser en parfumerie. Et donc, les pruniers, c'est extraordinaire. À Kyoto, il y a un temple qui s'appelle Kitano Tenmangu, et devant lequel a été planté, de temps immémoriaux, je ne sais pas depuis quand, un carré de 2000 pruniers. Et lorsqu'il commence à fleurir, toute la ville y va. Il y a des grands bancs installés sur lesquels on peut s'asseoir pour prendre un thé parfumé aux fleurs de prunier, et puis des petites galettes de riz, elles aussi parfumées à la poudre de prune, et en s'extasiant devant le renouvellement des saisons et la merveille de cette floraison dans le froid de l'hiver.
Et il paraît que c'est vraiment, alors c'est le sujet de discussion, comme on pourrait parler de la pluie et du beau temps, là-bas tout le monde considère, et puis surtout avec la crainte, ces fleurs sont éphémères, on regarde la météo, le vent, la pluie, et on se demande combien de temps ça va durer.
Oui, d'autant qu'aucune floraison ne ressemble à une autre. Il y a des années décevantes, il y a des années magnifiques. Pour les érables, on regarde s'ils rougeoient, on trouve que le rouge est tel. Les feuilles se fripent avant que le flamboiement ait eu lieu.
Alors on l'entend, les fleurs ont une place importante dans la culture japonaise. Elles sont aussi centrales dans votre roman. Chacun des 12 chapitres a un titre qui évoque un arbre ou une fleur. Tu rencontreras les azalées, le monde est comme un cerisier ou encore un camélia mouillé de ses larmes. Et puis dans votre ouvrage, chaque chapitre s'ouvre avec une petite parabole.
Dans la Chine des Song du Nord, quand poésie, peinture et calligraphie marchaient de concert, nichés comme des joyaux dans le songe des sages anciens, on aimait particulièrement à représenter et à mettre en vers les paysages et les fleurs. Or, l'un des plus grands peintres de paysages de cette ère avait une petite fille qui le priait chaque jour de lui dessiner un camélia. Une décennie durant, elle intercéda pour sa fleur. À 15 ans, elle mourut dans la nuit d'une affection fulgurante. Au petit jour, Fan Quan peignit un camélia mouillé de ses larmes et calligraphia au-dessous un poème de pétales envolés. Enfin, contemplant le rouleau encore humide, il vit avec effroi que c'était sa plus belle œuvre.
Ces paraboles sont vraiment, en tout cas moi je les ai lu comme ça des petits bonbons avant chaque chapitre, avec des messages subliminaux. On se demande ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut conclure. Moi, je pensais que c'était des vrais contes japonais ou chinois. Et vous m'avez dit, mais non, je les ai tous inventés.
Oui, oui, j'ai tout inventé. Alors, vous n'êtes pas le seul, puisque les lecteurs que je rencontre me disent la même chose, qu'ils ont été heureux de lire les passages du folklore japonais ou chinois, puisqu'il est question aussi de personnages chinois. Non, j'ai absolument tout inventé. Je n'ai pas de connaissance approfondie du zen, mais j'aime l'idée de ces récits paradoxaux où se met en abîme l'ambiguïté et l'ambivalence de l'existence et où les contraires s'affrontent pour produire une sagesse qui probablement va au-delà. Alors pour la petite parabole du camélia, elle fait partie du projet que j'avais de faire que Rose se confronte à tout un tas de risques pour enfin vivre et éclore, le risque de souffrir, le risque de donner, et là c'est le cas. Elle se demande souvent dans le roman si on peut donner quand on n'a pas reçu, et le parcours qu'elle fait va l'amener à comprendre que non seulement elle le peut, mais qu'elle le doit. Mais l'idée principale, c'était que ces paraboles servent la quête de l'héroïne, et puis qu'elles mettent en scène des fleurs. Je comprends pourquoi les Japonais aiment tant la fleur, parce qu'elle est à la confluence parfaite de la nature et de l'art.
Alors, votre roman ne parle pas que de beauté. Hein. Vous parlez aussi, vous nous en avez dit quelques mots en introduction, de la laideur de certaines parties de Kyoto. Et puis, vous dites aussi, au détour d'une phrase, le Japon est un beau bordel. Alors, il faut nous expliquer ça, parce que pendant toute cette émission, on a parlé de la méticulosité, de l'épure du Japonais. C'est aussi parfois un beau bordel, le Japon.
Alors, chez les Japonais que je connais, c'est très, très bordélique. Moi, j'imaginais que ça ressemblerait aux intérieurs des films d'Ozu, avec des tatamis sur lesquels il y aurait juste une table laquée. Mais non, c'est très bordélique et très chaotique.
Et au Japon, et c'est aussi le cas dans votre roman, Muriel Barbery, on ne boit pas que du thé.
Les enfants, leur deuxième bouteille de shochu à côté vont être frais.
Qu'est-ce que c'est en fait le shochu?
C'est de l'alcool de riz, mais distillé. Le saké, c'est fermenté. Le shochu, on en fait à partir de pommes de terre ou à partir de riz, ça dépend. Le meilleur, c'est le pomme de terre, donc c'est distillé. Et c'est fort, hein, 45 degrés. Donc ça se boit en long drink, avec du thé, de l'eau chaude, avec des prunes confites, avec du jus de pamplemousse.
Le saké déborde.
On entend l'appel de ceux qui prennent du bon des donuts.
Ce sont des ambiances qui vous rappellent des souvenirs, Muriel Barbery.
Oui, plein. Alors, je ne savais pas qu'on mettait du jus de pamplemousse dans le shochu. C'est pas très très bon, hein, l'alcool de patate distillée. Enfin, j'en ai rarement bu du très bon. Je préfère de loin le saké. Ce qu'il dit à la fin, le saké déborde, c'est une tradition dans certains restaurants. On vous apporte la tasse ou le verre dans une petite coupelle. Et on verse jusqu'à ce que le saké déborde de la tasse jusque dans la coupelle. Donc il y a une double ration de saké avec un double plaisir.
Et vos personnages, régulièrement, boivent alors de la bière, du saké. Oui. Ils sont parfois complètement ivres. Il y a un japonais très attachant, un vieux japonais, un potier, qui dit des vérités incroyables, mais sur un ton un peu de pochetron. Mais ça n'empêche que c'est souvent pertinent ce qu'il dit. C'est une réalité. On boit beaucoup au Japon ?
Ah, on boit énormément au Japon. On mange aussi beaucoup. On aime beaucoup manger. C'est une cuisine extraordinaire dont toute la diversité ne nous est pas encore totalement parvenue. Probablement parce qu'il y a des choses trop étranges qui seraient peu adaptables au goût européen. Mais c'est d'une diversité infinie. Et puis, les Japonais boivent beaucoup. Alors, la plupart d'entre eux n'ont pas l'enzyme qui permet de métaboliser les molécules d'alcool. Ce qui fait qu'ils sont sous et malades très très vite. Mais je n'ai jamais vu que ça les empêchait de ça les empêchait de boire.
Oui. Alors votre héroïne, Rose, d'ailleurs, elle aussi est parfois ivre. Ce parcours initiatique à travers le Japon va la métamorphoser complètement. Dans votre cas, à vous, Muriel Barbery, cette rencontre avec le Japon, vous diriez que ça vous a transformé ou c'est rentré en résonance avec celle que vous étiez ?
Oui, je pense que ça m'a transformé. Ça a transformé mon regard à jamais. Encore une fois, pas avec le sentiment d'une grande familiarité. L'étrangeté s'accroît même avec le temps, mais comme on est métamorphosé dans l'amour, quand la rencontre avec quelqu'un ou quelque chose d'autre vous bouleverse votre regard et votre appréhension du monde.
Merci Muriel Barbery pour cette escapade au Japon et dans les jardins et les temples de Kyoto. Je rappelle le titre de votre dernier roman, sublime, Une rose seule aux éditions Actes Sud. Un grand merci à vous.
C'est moi.
Restez avec nous dans un instant. Nancy Moots, nos amis de la série Nus et culottés de France 5, nous emmène dans un périple des rives d'une rivière du Gers jusqu'à l'océan. C'était London Grammar de Californian Soil et la programmation musicale du temps d'un bivouac est signée Muriel Pérez.
Petite chair de poule qui arrive là.
J'ai pas chaud.
Bonjour.
On est deux voyageurs, on va en direction de l'océan.
Vous avez pas froid ?
Ah si, on a froid.
Ah ouf là, c'est pas le bon endroit où fouiller là.
Mais non, il est pas méchant, mais quand même, il faut se méfier.
Ah,
il est pas habitué à ça.
D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que vous auriez un vieux pantalon ou un vieux t-shirt
qui traînerait dans un coin?
Magnifique. Vous avez quel âge?
Bientôt 97.
97 ans?
J'en ai connu des choses, vous savez. Bon, mais je vous souhaite bonne chance.
Eh bien, merci beaucoup.
Bonjour, Nancy Moutz.
Bonjour.
Ce soir, donc, nous allons découvrir le dernier épisode de la nouvelle saison de Nu et Culotté, votre série rebaptisée cet été Confinu et Culotté.
Et déjà le dernier, ouais.
Eh oui, hein, ça passe vite. Mais ils ont été plus longs à tourner, peut-être, ces quatre épisodes inédits dans ces conditions sanitaires compliquées.
Je dirais pas qu'ils ont été plus longs, ils ont été plus éprouvants, ça c'est clair, parce que ne serait-ce que sur la question des masques, c'était pas des réflexes qui étaient encore pleinement acquis. Aujourd'hui, c'est autre chose, mais au début, voyager avec des masques et avec les gestes barrières de manière générale, ouais, il a fallu se mettre dedans.
Hein. Alors, avec les masques, mais toujours avec la même règle, Nance, que l'on rappelle hein, pour oui. ces épisodes.
On part tout nu, sans argent, et on revient vivant.
Ouais. Et cette fois-ci, où commençait l'aventure?
On a commencé dans le Gers, vraiment dans la campagne gersoise, dans des petits coins super bucoliques, très ruraux. Et on avait cette ambition d'aller en direction de l'océan.
Avec une mission, toujours un objectif, toujours. Il y en a toujours un, c'était lequel cette
fois? Donc là, on avait envie de quelque chose de collectif et d'artistique dans cette période où on peut difficilement être en lien avec les autres et où le lien à la culture est très limité. On a eu envie de créer un grand land art, un très grand dessin, une fresque sur la plage où du coup le sable devient notre feuille blanche et de faire ça à plusieurs.
Et alors d'ailleurs, cette saison, les spectateurs, téléspectateurs ont pu le remarquer, il y a un drone qui vous accompagne, qui fait des images donc de drone vues du ciel. Mais qui pilote le drone? Parce que des fois, vous êtes sur l'image et le drone vous suit.
Alors, c'est nous.
Mais comment vous faites ça?
On est tout seul.
On cache la télécommande, on va essayer de se positionner dans un endroit où, avec l'angle du drone, on voit pas la télécommande. Et c'est vrai que c'est un peu une nouveauté là des dernières saisons, c'est qu'on va avoir plus d'images aériennes. Donc pour nous ça tombe bien puisque comme on voyage plus à pied ou à vélo, on rencontre un peu plus la nature et les paysages qu'on rencontre.
Ouais, alors vous rencontrez la nature, les paysages et puis les gens aussi. Et là parmi les premières rencontres, il y en a une, mais alors elle m'a touché cette dame, Marie-Claude je crois, c'est son prénom. Ouais. Je vous laisse raconter comment. Alors c'est vous rencontrez d'abord le fils de Marie-Claude, plutôt avenant, avec qui vous sympathisez, avec qui vous commencez un peu à travailler, à discuter. Et puis il vous dit, vous avez qu'à passer la nuit à la maison, ma mère a un gîte, hop, je vous emmène. Et quand vous arrivez, Marie-Claude vous reçoit, mais vraiment très très mal.
Comme un chien dans un jeu de quilles, et ce qu'on comprend tout à fait, c'est une famille de vignerons qui ne vit pas ses plus belles heures avec la crise sanitaire. Il y a du boulot par-dessus la tête, ils sont à la bourre pour telle et telle tâche. Et nous, on déboule là-dedans habillés avec une jupe de parasol qu'on a récupérée au fin fond de la rivière. C'est pas le moment, les gars. Non. C'est juste pas le moment.
Ouais. Et donc elle engueule son fils, elle lui dit non, il n'en est pas question.
Tu te rends pas compte,
Et elle nous engueule aussi.
Et elle vous engueule aussi un peu, oui.
Donc nous, on repart tous les trois.
Un peu penaud.
Penaud. Et en fait, le téléphone sonne dans la voiture alors que le fils s'apprête à nous déposer au village d'à côté. Et en fait, c'est cette fameuse dame, Marie-Claude, sa maman, qui se ravise et qui dit non, mais viens, on va les mettre au gîte. Ouais. Et en fait, à partir de ce moment-là, tout bascule. Et là, on est accueillis comme des enfants de la famille. Et ça se passe super bien, on reste plusieurs jours. Et cette transformation, c'est pas la première fois que ça nous arrive, mais celle-ci, elle a été particulièrement spectaculaire.
Ah, elle est spectaculaire. Et puis, en fait, je trouve que ça rend la scène beaucoup plus crédible. Ouais. Parce que finalement, en tout cas, moi, je me dis, mon premier réflexe, si je vous voyais débarquer sur mon palier en jupe avec taillé dans un parasol, à me dire, est-ce que je peux dormir là? Mon premier réflexe, je pense, ce serait quand même de me fermer, surtout si je suis préoccupé par autre chose.
Bien sûr.
Et par contre, le deuxième temps où on culpabilise, où on se dit mais qui je deviens, qu'est-ce que je fais, pourquoi j'ai même pas eu le temps d'écouter, ils avaient l'air tout sympas et puis je les ai envoyés promener. Et c'est très beau finalement comment elle va vous accueillir avec beaucoup plus de sincérité la deuxième fois.
C'est ça. Ouais, il y a soit la culpabilité, ça peut être un moteur effectivement. L'empathie, ça peut être un autre moteur. Et je pense que cette mère de famille, elle, elle sait ce que c'est que d'avoir des enfants qui sont sur la route, les plus jeunes, le voyage, et après le coup de colère qu'elle a dû avoir aussi, parce qu'elle a certainement avoir un excès d'émotion dû à la journée, je pense qu'il y a eu ce côté empathique qui est arrivé. Et nous, c'est vrai que c'est vraiment l'essence de Nuit Culottée, elle se trouve là, c'est-à-dire derrière les barrières qu'on érige les uns les autres pour se protéger, parce que voilà, les temps sont durs, parce qu'on peut être blessé mutuellement, ne plus avoir confiance. Mais derrière ces barrières, il y a un cœur qui bat, il y a une empathie, il y a une envie d'entraide, de solidarité, et c'est ça qu'on vient chercher dans Nuit Culottée.
Mais elle va être aux petits soins encore plus que tous les autres, parce que ils vous donnent souvent les gens des vêtements, mais là, avant de vous les donner, alors qu'elle vous avait dit qu'elle était débordée, qu'elle avait autre chose à faire, elle recoue les vêtements, elle passe à la machine
à coudre. Anorak, Non, mais en plus, ils se sont démenés, parce que dans ce voyage, on voulait voyager à vélo pour rejoindre l'océan, donc on cherchait des vieux vélos, et en fait, ils ont fait le tour de la ferme, ils ont trouvé 3-4 carcasses de vieux vélos, et avec tout ça, on en a bricolé deux. Donc, ils ont pris du temps alors que eux-mêmes ne pensaient pas en avoir. Et il y a quelque chose de magique. On se l'explique toujours pas. Hein. Là où on croit qu'il y a des murs, et il y a des portes où les murs se déplacent. Et pour les gens eux-mêmes, c'est une expérience où on est tous un peu bouleversés.
Ouais. Hein. Et puis du coup, vous avez été tailler les vignes. Hein. Vous avez été mis au boulot. Vous avez appris à tailler.
C'est quelque chose qui est important pour nous. C'est-à-dire, on reçoit beaucoup à manger, un toit. Un trajet en stop avant quand on faisait du stop. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on donne derrière? Alors, on a développé tout un tas de techniques pour faire des cadeaux, pour rendre des services, pour créer des poèmes, chanter. Ouais. Ça, on aime beaucoup qu'il y ait cet échange-là.
Ouais. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que, mais ça, on le retrouve dans les 4 épisodes de cette saison très particulière de Confinu et Culotté, c'est qu'elle vous dit comment elle, en tant que vigneronne, viticultrice, elle vit la crise sanitaire. Mmh. Et ça, à toutes les échelles, sur toutes les rencontres, ça finit par ressortir, la peur du virus, les complications économiques, professionnelles. Qu'est-ce que vous retirez, vous, plus généralement, sur ces 4 épisodes? Vous avez eu l'impression d'aller un peu toucher de près la crise que nous vivions tous, chacun chez nous?
J'ai l'impression qu'une chose qui s'est révélée à nos yeux, c'est que derrière les difficultés, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient de l'ordre de la solitude, on a pu percevoir à plusieurs moments, et notamment chez ces vignerons, le côté filet de sécurité de la solidarité d'un groupe, que ce soit au sein d'une famille, que ce soit avec, là en l'occurrence c'était entre producteurs.
Ouais. Aussi au sein de la famille, parce qu'ils travaillent beaucoup en famille chez les vignerons.
Et c'était beau à voir de sentir notre humanité qui est éprouvée, clairement, il y a ce virus qui nous tombe dessus, personne ne pouvait l'anticiper à cette mesure-là. Et allez, qu'à cela ne tienne, on se démène et on va se serrer les coudes, on peut plus se serrer la main, serrons-nous les coudes, et en fait, dans plein de situations, ça a sauvé des coups.
Oui, autre chose, c'était souvent on dit qu'il faut perdre quelque chose pour mieux le retrouver. Là, j'ai l'impression qu'on est sorti d'un grand jeune collectif de relations humaines. Ouais. Et quand on arrivait chez les gens, quelle bouffée d'air frais. Mmh. Je me souviens de cette femme là à qui on offre un spectacle de vélo avec un jeune artiste qui est venu avec nous sur la route. Et ils en pleuraient. Ils disaient mais fait des mois et des mois qu'on n'a pas vu de spectacle. Quelle émotion de pouvoir enfin revoir de l'art chez nous.
Il y aura d'autres épisodes et prochainement de Nuit et Culottée.
Eh ben, on est en réflexion parce que ces voyages, c'est pas quelque chose qui peut s'installer dans un rythme de production où on se dit tiens allez on signe pour 10 ans. C'est un peu comme se mettre à table, c'est jouissif de se mettre à table mais à condition d'avoir faim. Et après des voyages aussi nourrissants, on a besoin de laisser décanter, on a besoin aussi d'offrir ça au public et de voir quels sont les retours. Et d'un point de vue purement concret, il y a aussi cette crise sanitaire où on attend de voir aussi un peu dans quel sens le vent va tourner. Donc on y réfléchit, on en a bien envie, mais voilà, il y a rien d'acté encore.
Dernière question, peut-être un peu plus personnelle. Est-ce que cette série qui existe maintenant depuis presque 10 ans, une petite dizaine d'années, qu'est-ce qu'elle a changé dans votre vie personnelle, dans ce que vous êtes vous aujourd'hui? Et est-ce que ça a changé quelque chose, Nantes?
Moi, je suis pas vagabond au quotidien. C'est-à-dire, j'ai une maison, j'habite avec des colocs, etc. Mais je crois que si j'ai appris pendant 10 ans à recevoir, je crois que maintenant j'arrive dans une phase où j'ai encore plus de plaisir à donner et à partager. C'est comme ça me faisait explorer un peu l'autre facette.
Mout.
Pour ma part, j'ai l'impression que ces aventures répétées Nuit et Culottée sont comme un entraînement à agir et à vivre à partir du cœur versus agir et vivre à partir de la tête. C'est vraiment une école pour moi qui m'invite à revenir dans un rythme plus lent et plus sincère avec moi-même et avec les autres.
Bon, on aurait eu envie d'avoir plus d'épisodes, mais ce sera le dernier épisode ce soir. Et il y en aura peut-être d'autres qui viendront si vous avez de nouveaux fins. Pour découvrir donc cet épisode dans les Landes, rendez-vous ce soir sur France 5, Confinu et Culotté, en partenariat avec Le Temps d'un Bivouac et Nancy Moutz. Un grand merci de nous avoir accompagnés tous les mardis de ce mois de juillet avec jusqu'à ce mardi d'août. À bientôt peut-être.
À bientôt. Certainement.
Merci.
Le Temps d'un Bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast. Merci pour vos messages sur la page Facebook ou sur la page de l'émission sur franceinter.fr. À demain pour de nouvelles aventures.